en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean Leclan, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1983. Précédemment, vous y avez été élu membre ordinaire, c'est-à-dire académicien, dès l'année 1974, au fauteuil de Jacques Vandier. Vous aviez alors 54 ans. Jean Leclan, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission En habit vert qui présente des portraits d'académiciens. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir pour parler de votre parcours d'égyptologue et de votre rôle à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Pour vous présenter, vous êtes orientaliste spécialisé en égyptologie, en histoire et civilisation pharaonique, en particulier de la 25e dynastie, et en civilisation méroïtique. Alors, l'archéologie, l'épigraphie, l'histoire religieuse, l'histoire de l'art de l'Égypte ancienne ont mobilisé votre érudition et votre énergie au service de l'enseignement universitaire à Strasbourg, à la Sorbonne, à l'École pratique des hautes études, au Collège de France. Mais vous avez aussi assuré la direction de nombreuses campagnes de fouilles archéologiques. Et la liste de vos publications sur le site internet de l'Académie des inscriptions et belles-lettres porte le joli titre de « Principale publication ». C'est dire que la liste est déjà très longue. Vous appartenez à de nombreuses sociétés savantes, comme la fameuse Société asiatique, à des associations comme l'Association internationale pour l'histoire des religions, ou l'Association internationale des égyptologues, et là encore, je ne peux en donner la liste complète. Enfin, vous êtes membre d'autres académies étrangères, à titre d'exemple, l'Académie royale des sciences, des lettres et des arts de Belgique, ou bien encore l'Académie des sciences de Russie ou l'Académie d'Athènes. Alors, Jean Leclan, je n'ai fait que lever partiellement le voile de vos activités, vos actions et votre passion pour l'égyptologie. À l'écoute de ce résumé impossible, on se rend compte que vous êtes un homme au cœur de multiples réseaux internationaux, de confrères, de chercheurs, et que vous êtes un animateur clé de la recherche en égyptologie. À l'image de vos travaux de recherche, sans frontières dans le temps et dans l'espace, on remonte le temps avec vous en millénaires, et on passe de l'Égypte au Soudan, à l'Éthiopie. En un mot, on voyage dans l'Antiquité, dont vous nous aidez à déceler la modernité dans le dernier ouvrage que vous avez dirigé, le Dictionnaire de l'Antiquité publié au PUF en octobre 2005, un ouvrage monumental de plus de 3000 entrées auquel ont participé des centaines d'auteurs. Alors j'invite les internautes à écouter l'émission que nous avions enregistrée ensemble sur ce sujet. Téléchargez-la à partir de notre médiathèque dans la rubrique « Au fil des pages ». Jean Leclan, il faut une sacrée curiosité et une ténacité hors du commun pour reconstituer les morceaux du pulse d'une histoire de plus de 3000 ans. D'où tenez-vous votre passion pour l'égyptologie ?
Bien d'une admiration qui n'a fait que croître d'ailleurs au fur et à mesure que je la connais mieux vis-à-vis de la civilisation égyptienne, puisque c'est une des plus anciennes civilisations du monde, une des plus longues aussi, puisque Pharaon a été sur le trône de l'Égypte pendant plus de 3 millénaires et demi, et que des monuments tels que les grandes pyramides de Gizeh ou les ruines du temple impérial de Karnak sont naturellement l'objet des foules de touristes qui viennent visiter la vallée du Nil.
Enfin, vous aviez déjà eu un contact avec cette civilisation égyptienne ?
Oui, je crois qu'enfant, j'aimais en rêve beaucoup voyager, et j'étais extrêmement curieux des choses, et ayant la chance d'être parisien, dans les 8-9 ans, avec sous la conduite de ma grand-maman, je visitais le musée du Louvre, et ensuite, lorsque j'ai fait mes premiers pas seul dans la capitale, et bien souvent je traversais le parc des Tuileries. Il y avait à ce moment-là, pour le fameux mastaba du Louvre, avec ses scènes multicolore et chatoyante, il y avait là une petite entrée spéciale que je pratiquais. Et ensuite, je déambulais, très curieux, au milieu des sarcophages qui me contemplaient de leurs grands yeux étonnés. Et je pouvais, au-delà, imaginer toute cette foule des anciens Égyptiens à travers leurs représentations si diverses et si animées, si colorées à travers le musée du Louvre.
Oui, parce qu'effectivement, vous évoquez le mastaba d'Akhetep,
c'est comme ça,
du Louvre, qui est une chapelle qui avait été entièrement démontée
et donnée par les Égyptiens au musée du Louvre dans les années 1900.
Qui a été reconstituée. D'ailleurs, le musée du Louvre, je crois, actuellement, travaille aussi du côté de l'Égypte sur le site d'où elle avait été extraite.
On a travaillé ces dernières années, une équipe du musée du Louvre, sous la direction de sa conservatrice générale, a travaillé très ardemment à Saqqara pour retrouver l'emplacement qui avait été d'ailleurs noté d'une façon très approximative. Il a fallu retirer des tonnes et des tonnes de sable et de gravats pour retrouver l'emplacement à partir duquel on avait extrait cette chapelle. Et ce faisant, on a découvert des statues du personnage, cet Akhetep qui était le possesseur de ce mastaba, des membres de sa famille, plusieurs autres chapelles considérables, et voilà encore un des gains très notables de l'archéologie égyptologique au cours de ces récentes années.
Alors, quand avez-vous décidé de devenir égyptologue ?
Ça s'est fait par étapes successives, vous savez, j'avais ce rêve, j'allais aussi au musée Guimet, au musée Chernouski, et Sciation tibétaine, par exemple, aussi, me semblait très mystérieux. De tout ça, j'avais, si vous voulez, décidé que je voulais faire des études d'histoire, d'archéologie. Je ne savais pas très bien le chemin à parcourir. Mes parents m'orientaient plutôt vers Polytechnique, ce qui était raisonnable. Mais j'ai expliqué que je voulais vraiment... On m'a dit, bon, une condition, tu fais des études sérieuses. Mes parents étaient conseillés par des gens comme Alfred Kastler, le futur prix Nobel, ou par Jean Guéhenneau, qui était un ami très proche de la famille, et tous disaient, bon, il y a une voie, il se débrouillera, il faut qu'il rentre d'Ulm. Par conséquent, je savais qu'il fallait un beau jour passer un concours redoutable pour aller vers cette mystérieuse rue d'Ulm, dont je savais qu'elle était quelque part sur les hauteurs, pour moi, semblant inaccessible, du Panthéon et de la montagne Sainte-Geneviève.
Alors effectivement, vous intégrez l'école normale supérieure en 1940.
Oui, c'était un moment difficile. Comme vous le savez peut-être, en 1939, le gouvernement avait décidé que les classes de préparation supérieure seraient en province pour éviter d'être à Paris. Elles étaient donc repliées en province. J'étais entré en 1938 au lycée en Cagne, au lycée Henri IV. Cagne, au lycée Henri IV, et la Cagne d'Henri IV était à Rennes. Je suis donc parti par Rennes, où j'ai été demi-pensionnaire pendant une année, et j'ai passé le concours. C'est au milieu de l'épreuve de philosophie, dont le sujet était « qu'est-ce qu'agir ?». C'est là que, brusquement, la porte s'est ouverte et on a annoncé l'invasion de la Belgique par les troupes hitlériennes. Par conséquent, vous voyez, j'étais à la gare, avec l'exode allait commencer dans les jours suivants, avec ces foules venant de Belgique, des territoires du Nord, très rapidement occupés. Et c'est dans ces circonstances que j'ai passé mon écrit. Puis, étant en Bretagne, je ne suis plus occupé des choses. J'ai essayé par Saint-Malo, j'étais refoulé là pour aller en Angleterre. Et j'étais là quand j'ai appris qu'il y avait un concours, que j'étais admissible au concours, qu'il fallait immédiatement aller à Paris pour passer l'oral. Et un beau jour,
et là, vous avez 20 ans.
Regardez la liste et à ma stupéfaction et à ma joie, j'ai découvert que j'étais sur la liste et que par conséquent, j'intégrais l'école qui, d'ailleurs, étant occupée par les Allemands, il s'agissait de rallier dans les jours suivants l'école polytechnique qui, sont les paradoxes de l'histoire, polytechnique n'était pas occupée. Et par conséquent, nous étions là et c'est là que j'ai passé les premières années de l'occupation, les années vraiment très noires, très lourdes et voilà.
Qui avez-vous croisé à l'école normale supérieure comme
J'ai été accueilli là par
de votre génération avec vous pendant cette période.
Pierre Copineau était le directeur et dans ma génération, j'ai eu d'excellents camarades que j'ai continué durant toute ma vie à voir. Malheureusement, l'errance, ça c'est la tristesse, le grand âge, c'est de voir disparaître des compagnons d'armes, des compagnons de vie, des compagnons d'études, des compagnons d'espoir qui ont eu les mêmes espoirs que vous dans leur jeunesse.
Alors en 1944, vous passez l'agrégation de géographie, qui est une nouvelle agrégation.
Entre-temps, vous savez, j'ai travaillé à l'école où je dois dire que j'ai eu une sorte de privilège dans notre malheur, c'est que comme nous étions consignés, il y avait le couvre-feu à cette époque, et par conséquent, je passais mes soirées, des bouts de nuit, j'avais le privilège d'avoir la clé de la bibliothèque, une lampe électrique, et de pouvoir dévorer des bouquins. Jusqu'en 42, j'ai fait mon mémoire d'études sur un sujet fort intéressant. C'était Amon, voilà, son oracle l'Oasis et son culte chez les Grecs. C'est-à-dire que j'avais une double carte avec des petits drapeaux, l'une avec le pèlerinage d'Alexandre vers l'Oasis d'Amon dans le désert libyque, et l'autre, les mouvements conjugués et antinomiques des troupes de Rommel et de Montgomery.
Alors vous suiviez sur la carte en même temps les évolutions des campagnes militaires.
Voilà, et je lisais à travers les auteurs antiques, Cancurs et les autres, la description de la piste qu'avait suivie Alexandre pour se rendre jusqu'à l'oracle si célèbre du dieu Amon. Ça a duré comme ça. La semaine où j'ai soutenu mon mémoire, en 43, je suis passé dans l'autre zone. Mais là, les circonstances étant, les camarades avec qui je devais passer en Espagne n'ayant pas attendu ma soutenance de mon mémoire, je me suis retrouvé là et j'ai fait du forestage, un peu de maquis, et je me suis retrouvé en 44 à la Libération. Je me suis engagé dans la marine.
Dans quel maquis? Dans quelle région?
Dans la région de Grenoble. Et là, après la Libération, et quand j'ai été promu aspirant, j'ai été expédié en Autriche, à Vienne.
Sur le Danube, en fait.
Que je ne pouvais pas atteindre, puisque le Danube étant en zone russe, nous ne pouvions pas y aller, tout au moins officiellement. Et là, donc, j'ai vécu une année à Vienne. J'ai eu la chance de perfectionner mon allemand, naturellement.
Et là, vous étiez en fait chargé de mission sur les dossiers culturels pour l'état-major.
J'étais au petit détachement de marine de Vienne, qui comprenait un certain nombre de matelots particulièrement disciplinés, dont on ne pouvait rien faire ailleurs. Et puis, avec les problèmes quand même de navigation sur la Neve, j'étais à l'état-major du général Bétoire, et rapidement j'étais récupéré par les services culturels pour faire des cours à l'université de Vienne, et moi-même de pratiquer un institut qui était merveilleux, s'appelait Institut für Ägyptologie und Afrikanistik, c'est-à-dire qu'à Vienne, on considérait l'Égypte dans son contexte africain. Ce qui confirmait mon idée première que le Nil coulant en Afrique, il se trouvait que les rapports de la civilisation égyptienne avec l'Afrique devaient être au moins aussi intenses qu'avec le monde de la Bible ou le monde grec, par lequel généralement les gens abordaient l'Égypte. Par conséquent, il y avait un changement complet, et en plus les hasards ont fait que dans un dîner, un midship à Vienne, c'était particulièrement apprécié, pratiquait un certain nombre d'archiduchesses et de jeunes baronnes. Et un dîner, soudain, ma voisine, ayant expliqué qu'elle avait fait une thèse de doctorat, et moi m'enquérant de son sujet, elle me dit « Oh, c'est un sujet bien difficile, en particulier, j'ai étudié un petit peu comment l'Égypte était dominée par des gens venus du Sud, par les Éthiopiens. » Alors, vous deux ou trois fois, je lui dis « Bon, alors vous travaillez donc sur Taharqa et... » Il dit « Comment Taharqa? Comment vous pouvez connaître Taharqa ?» Moi, je lui dis « Parce qu'effectivement, je suis ici à Midship, mais en réalité, j'avais commencé déjà des études d'égyptologie. » Et alors, elle m'a dit, nous sommes rencontrés de nouveau, elle m'a dit « Voilà, ma thèse a été imprimée, mais bombardée à Leipzig, mais j'en ai 3 exemplaires. Et en souvenir de notre rencontre, je vous en donne un. » Par conséquent, j'ai le travail de Lene von Seyssel entre les mains, mais j'étais le seul en France à avoir ce bouquin.
Et à prendre aussi d'emblée
cette perspective
de recherche.
De considérer la situation égyptienne dans son éventuel contexte africain. Ensuite, j'ai pu travailler, j'avais commencé là, l'étude du vieux Nubien, Alt-Nubisch, avec Tchermak, un professeur particulièrement renommé. Et ensuite, ça m'a servi effectivement, quand j'ai eu sur le terrain même à me rendre en Nubie et à travailler sur des documents concernant les cultures qui s'étaient succédées en Égypte même et aussi en amont de l'Égypte, c'est-à-dire dans la Nubie. J'ai fait mes premiers voyages autour de l'Égypte jusqu'au Soudan, ce qui était à ce moment-là une terre très rare, terra incognita. Et donc, dès 48, j'ai pu être à pied d'œuvre pour les recherches qui allaient me passionner, et en particulier l'étude de Méroé, une grande civilisation qui s'est développée sur le Nil durant le premier millénaire avant notre ère.
Alors, je veux juste un petit peu revenir sur les langues, parce que vous venez de nous expliquer qu'à Vienne, vous aviez déjà travaillé sur des langues africaines. Un égyptologue, c'est avant tout c'est aussi un philologue. Et combien de langues anciennes, par exemple, maîtrisez-vous? Vous pratiquez? C'est pas tellement pour le nombre, c'est pour qu'on mesure un petit peu.
Il est difficile de concevoir un égyptologue. Vous savez, les égyptologues proviennent de toutes sortes d'horizons. Il y a des architectes, anciens photographes, des archéologues de terrain, dans les générations actuelles. Autrefois, on se formait peu pour le terrain, mais aussi des historiens des religions, etc. Enfin, il y a toutes sortes d'avenues pour venir, mais à chaque fois, on se trouve face à cet univers extraordinaire de l'écriture hiéroglyphique et des textes hiéroglyphiques. Et il est bien difficile d'être vraiment un égyptologue complet sans participer à la connaissance du hiéroglyphique. J'ai donc fait des études sur le hiéroglyphique, naturellement, et sur les autres formes, les autres états de la langue égyptienne ancienne, qu'on appelle le hiératique et le démotique, qui sont formés avec des éléments dérivés des hiéroglyphes de base. Naturellement, il est utile d'avoir des notions d'hébreu aussi, c'est-à-dire de regarder du côté des langues sémitiques. Il faut naturellement, il est souhaitable, de connaître le grec et le latin. Je dis souhaitable parce que maintenant les cursus des études sont tels que beaucoup arrivent vers toutes ces situations sans connaître le grec et le latin. J'appartiens à une génération étant normalien, Rudul, puis donc entré moi avec un concours où il y avait une forte connotation de grec et de latin. C'était un concours général, j'avais un accessible de version grecque par exemple, mais tout ça semblait normal dans ces temps fort anciens qui correspondent à ma formation et à ma jeunesse. Alors, il faut ensuite aussi, rapidement, j'ai fait, avant de partir au Caire, j'ai naturellement suivi les langues orientales avec des cours d'arabe. Mais là, voyez-vous, je retrouve les langues sémitiques avec la connaissance de l'arabe. Puis ensuite, bien sûr, le tas, ayant vécu en Nubie, il a fallu que
Vous avez dû apprendre tous les dialectes, là.
Du Nubien, naturellement. Je suis allé ensuite, ma carrière m'a emmené jusqu'en Éthiopie, où
oui,
là,
aussi.
J'ai pris des notions d'Amharique et de Gueuse. Parce que ça, c'est normal, vous savez, lorsqu'on commence à s'aventurer à travers toutes ces langues, il est évident que de l'une, on passe à l'autre, parce qu'il y a aussi encore le dernier état de l'égyptien, c'est le copte. Mmh. Et j'ai même été amené à l'université de Strasbourg à enseigner,
enseigner
le copte.
Je crois, oui.
Par conséquent, tout cela est effectivement un substrat philologique qui est absolument nécessaire pour celui qui veut étudier l'histoire égyptienne et ne pas s'en tenir simplement à la description archéologique ou des monuments ou du terrain de fouille.
Alors, sur cet éventail des langues nécessaires à l'étude de l'égyptologie, je vous propose de marquer une courte pause musicale et de retrouver dans quelques instants notre invité Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
C'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture ou encore les ouvrages primés par les académies. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Retrouvons Jean Leclan dans l'émission En habit vert qui évoque pour Canal Académie son parcours d'égyptologue. Jean Leclan, alors après votre passage en Autriche, votre retour en France, vous êtes accepté comme pensionnaire à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et vous arrivez dans cette fameuse capitale en septembre 1948. Quelle fut votre première émotion avec le sol égyptien ?
C'est déjà la traversée dans ce temps-là. Il y avait des rites de passage, ce n'était pas comme à l'heure actuelle, brusquement, je quitte mon bureau Quête-Conti, et 4 heures de vol, je suis dans l'énervement, la chaleur, etc. L'agitation un peu confuse, souvent, du Caire. Donc, on quittait Marseille avec un bateau totalement européen, et petit à petit, lorsqu'on allait débarquer trois jours et demi, quatre jours après Alexandrie, eh bien le bateau était devenu totalement presque oriental. C'est-à-dire que déjà confusion des bagages perdus, des retrouvés.
Vous aviez un avant-goût de l'Orient.
Nous étions mêlés avec les bagages d'un couple d'instituteurs français qui allaient en Égypte et qui avaient été chargés des valises par le ministre de l'Intérieur. Mais le malheur, c'est que les valises contenaient toutes sortes de choses et que l'officier qui avait été chargé de venir prendre réception de tout cela, ayant trouvé un autre ministre sur le bateau, avait disparu au moment crucial des opérations, et que cette brave mamie, que nous avions les connaissances sur le bateau, s'est retrouvée encadrée par les policiers, les bagages saisis, etc. Enfin, ça m'a, dès la première expérience, une expérience très intéressante, relâchée naturellement, avait des excuses, car tous ces biens qui étaient indûment entrés n'étaient pas ses biens personnels, mais étaient celles d'un haut personnage du pays. Alors, tout cela, très bien, me voici au Caire, et dans les premiers jours, on m'expédie 3-4 jours à Saqqara, où je retrouvais l'OER, que je connaissais déjà.
C'est le premier site que
oui,
votre première visite, est pour Saqqara.
Je suis resté une petite semaine avec l'OER, qui vivait là en ermite.
Votre excitation devait être très grande.
On m'a expédié à Karnak, où je suis tombé sur un autre architecte totalement différent de style de l'OER, qui s'appelait Robichon. Robichon était un véritable génie archéologique. Et mon ami Barquet, avec qui j'avais fait mes études d'égyptologie ici à Paris, et tous les trois ont été chargés du chantier de Karnak. Et Robichon, avec qui me menait le premier matin de mon séjour à travers des ajoncs qui occupaient le site, on tombait sur des pierres, droite à gauche, avec le pied. On écartait, on apercevait des cartouches. À un moment, on me dit, tiens, vous avez vu le dernier cartouche, est un peu particulier. Bon, je lui dis, oui, c'est celui de Tarka. Je dis, celui de Tarka. Vous connaissez, de nouveau, vous, comme j'avais eu en Autriche, vous connaissez Tarka. Ah, je dis, oui, c'est apparemment de la 5e dynastie. Ah, me dit-il, voilà, il y a d'autres fragments à proximité. Et qu'est-ce que vous diriez si cette année-ci, on dégageait justement ce monument de Tarka, ça vous intéresserait, ce que l'on a fait. Et par conséquent, je suis arrivé à Karnak connaissant 4 monuments de la 25e dynastie. Quand 4 ans après je suis parti, j'en avais étudié 41. C'est vous dire l'état dans lequel, et ça, c'est la dose à travers l'Égypte de ce que l'on connaît et de ce qu'il y a à faire. Par conséquent, j'ai eu la chance pendant mes 4 années. Avec Robichon, nous avons fouillé le Karnak Nord, nous avons trouvé une colonnade entière de Tarka démontée et réutilisée par un Ptolémée dans des fondations. Par conséquent, nous avons passé 2 années à étudier de très près les fondations et en faisant un relevé, mais absolument pierre par pierre et avec des positions, etc., qui nous ont permis de découvrir beaucoup de choses, car à ce moment-là, l'Égypte était partagée, l'égyptologie partagée entre 2 écoles, les symbolistes, c'est-à-dire l'école des Lubitsch, dont faisait partie Robichon, qui pensait que tout dans la situation égyptienne était signifiant et qu'en particulier, beaucoup des messages se trouvaient dans les fondations. Et que par conséquent,
il y avait controverses.
Voilà. Tandis que Chevrier, qui était devenu mon ami aussi, Chevrier qui dirigeait le temple de Karnak, Chevrier et les maîtres parisiens, les grands maîtres, Lacot, Lefebvre, qui m'avaient formé, pensaient que cette école était une bande de joyeux farceurs et par conséquent refusait cette interprétation. Refusant cette interprétation, ils allaient même plus loin et naturellement avaient une fouille beaucoup moins précise que ceux qui, comme Robichon, voulaient démontrer que ces fondations avaient une signification. Et par conséquent, j'ai été formé, moi, dans une école hérétique, mais jugé par des maîtres orthodoxes. C'est-à-dire que notre publication finale avec Barguet, Karnak Nord 4 a été une jonglerie, car il ne s'agissait pas naturellement d'en faire un pamphlet pour les symbolistes. Donc, école d'ailleurs, nous ne pensions pas que tout était signifiant. Il y avait des éléments signifiants, mais au milieu d'un tas de choses qui n'étaient que des coïncidences, ou le fruit simplement des événements et du momentané, mais sans signification particulière, sans intention particulière. Alors nous en sommes tirés par le jeu des index. Par exemple, observation très précise, et d'ailleurs qu'on pouvait faire dans d'autres monuments nombreux, c'était que le monument égyptien n'est jamais parfaitement symétrique. Il est très souvent dissymétrique. D'un côté, par exemple, d'une porte, il y a un colosse de chaque côté. Mais l'un des colosses a un dosseret qui se termine d'une manière en forme de stèle, oui. Cylindrique, demi-cylindrique, et l'autre, au contraire, en forme est pointue, en forme d'obélisque. Et par conséquent, ils ne sont pas réellement symétriques, puisqu'ils ont des dosserets qui sont différents. La grande chose, c'était Robichon Ricanet disait, oui, ils pensent que c'est exactement comme dans leur salon, il y a un chandelier à droite, un autre chandelier à gauche, etc. Non, c'est pas fait comme ça, etc. Enfin, tout cela, c'était des querelles dans lesquelles on s'en était avec un. C'est seulement dans ma dernière leçon au Collège de France, vous voyez, de nombreuses années après, que j'ai réglé ma conscience en consacrant mes dernières leçons au Collège de France à l'étude, justement, des singularités du temple égyptien, où j'ai déballé le paquet tout entier.
D'accord.
Par conséquent, je suis en règle avec ma conscience, mais je veux dire comment, dès le début, je ne pouvais pas, comme premier coup d'éclat, déballer comme ça les choses en public. Et nous avons donc pris, par exemple, dissymétrie. Quand on regarde l'index, un index très détaillé de cette publication, on voit 25 exemples de dissymétrie que nous avons classés à tous les étages du temple, depuis le soubassement, les fondations, jusqu'au faîtage, jusqu'aux architraves du sommet. Par conséquent, devant une avalanche telle, celui qui réfléchit un petit peu se dit qu'il va y avoir un problème avec la dissymétrie.
J'aimerais qu'on évoque aussi la figure de Jean Sainte-Farge Garneau, qui vous a donné des cours,
Jean Sainte-Farge Garneau, c'est lui qui, à l'École normale supérieure, était venu nous pêcher, en quelque sorte, enfin sur les conseils de Jérôme Carcopino, qui veillait beaucoup à ce que ces jeunes normaliens aient leur curiosité éveillée. Nous avons pratiqué, j'ai fait appeler des gens pour nous dire comment se posaient les problèmes en hindi, par exemple, pour l'Inde, faire de la sinologie, vers des tas de recherches comme ça particulières. Et Jean Sainte-Farge Garneau est venu pendant une année entière m'expliquer avec mon ami Marcadet qu'est-ce que c'était que le système hiéroglyphique. Donc j'ai été bien formé, et ensuite, d'ailleurs, je devais succéder à la Sorbonne à Jean Sainte-Farge Garneau, pour lequel je conserve un souvenir très ému et très reconnaissant. C'est lui qui m'a façonné dans mes débuts. Aussi, l'abbé Drioton, au Caire, naturellement, j'ai beaucoup pratiqué Débonnaire et si savant, chanoine Drioton, le chanoine qui dirigeait le service d'antiquité égyptien, un chanoine en tarbouche, et qui était vraiment un puits de science et qui, en réalité, j'ai su après, il semblait la facilité même. Avec lui, tous les problèmes se résolvaient. Mais en réalité, c'est parce qu'il avait une puissance de travail énorme. J'ai eu entre les mains ensuite les dossiers, les fichiers du chanoine Drioton. Je peux dire que son aisance, sa facilité, était le fruit. C'était le fruit d'un travail énorme. Comme d'ailleurs, je l'ai constaté très souvent dans ma vie, que les choses qui apparaissent les plus faciles sont faites par des gens qui, en réalité, ont vraiment travaillé dur et de façon ardue pour se mettre au niveau de la connaissance exigeable.
Alors, durant ce séjour à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, vous accumulez donc une vaste documentation dont vous avez parlé sur le site de Karnak, et puis également sur le palais funéraire de Montouhemat.
Montouhemat, oui, c'est le grand personnage à la 5e dynastie.
Et je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu moins dans notre entretien, parce que, en fait, vous vous intéressez aussi au culte d'Osiris, à la même époque. Et en fait, à ce moment-là, vous recueillez la matière de vos deux thèses de doctorat qui seront consacrées à l'époque dite éthiopienne. Et
nous avons levé parce que éthiopien.
Justement, nous expliquer un peu.
Comme je suis allé ensuite dans l'Éthiopie,
ce que recouvre cette période.
L'Éthiopie, l'Abyssinie, l'ancienne Abyssinie. Éthiopien, maintenant, on emploie plutôt le terme anglais. Dans la Bible, lorsque l'on parle de Tarka, car on parle de Tarka dans la Bible plusieurs fois, parce que l'Égypte, alors, est entrée en conflit avec la Syrie. Entrant en conflit avec la Syrie, elle est donc allée en Palestine, et donc dans la Bible, il y a des échos de cette lutte. Et c'est le pays de Couche. D'ailleurs, les Anglais ont toujours employé le terme Couchite pour parler Couchite ou Couchitique. Et nous parlons maintenant de la 25e dynastie dite Couchite.
Oui. Ou les rois couches.
Les rois de couches.
De couches.
C'est, vous voyez, ce sont les territoires au sud de l'Égypte, ce qu'on appelle maintenant la Nubie, ou la Nubie, le Soudan, tout ça c'est le pays de couches. Alors, pour éviter l'amphibologie avec Éthiopie,
on
c'est
la dénomination.
La nation, Mais dans les textes grecs, c'était la 25e dynastie éthiopienne, c'est-à-dire des gens qui ont le visage brûlé. C'est ça que ça signifie éthiopien, éthiops.
Toujours pensionnaire à l'Institut français d'archéologie du Caire, vous avez à cette époque aussi découvert, enfin forcément, mais le grand temple d'Abou Simbel, ça a été une grande émotion pour vous ce jour-là.
Ah oui, je suis allé à Abou Simbel dès ma première
là
année.
Aussi.
Je suis parti avec un domestique et deux paniers à provisions, j'ai pris la malle du Soudan et on m'a débarqué en pleine nuit sur le rivage d'Abou Simbel où j'ai dormi dans mon sac de couchage et le matin j'ai eu comme ça la merveille et je suis resté pendant 3 jours en attendant que la marque du Soudan ait débarqué ses passagers anglais à Wadi Halfa et de soit revenu pour regagner Assouan.
Vous êtes à partir de là aussi, vous avez fait un saut jusqu'à Khartoum, mais jusqu'à, vous avez été aussi à Djibouti pour d'autres raisons.
Ah, je suis allé à Djibouti, oui, parce que...
Pas très longtemps, mais ça a été une autre rencontre.
Ça a été une autre rencontre, je suis allé à Djibouti parce que la Jeanne d'Arc, venant à Alexandrie, puis à Suez, et ensuite sur la mer Rouge, gagnant l'océan Indien.
Vous avez été rappelé comme...
J'ai été rappelé comme réserviste pour faire une période sur la Jeanne. Et ça a été une période magnifique. Et là, j'étais embarqué jusqu'à Djibouti, un peu malgré moi, mais enfin, c'était tentant de traverser la mer Rouge jusqu'à Djibouti. Et en cours de route, l'amirauté française a fait savoir qu'elle souhaitait que la Jeanne détache un officier pour aller porter un message spécial à l'empereur. Et le commandant était très... ennuyés, Toulouse-Lautrec avait des manœuvres à faire avec les Anglais, était en retard sur son programme, le navire ayant été fourré sur un banc de sable par les pilotes du canal de Suez, dont j'ai pu mesurer à ce moment-là qu'ils n'étaient pas forcément les meilleurs experts au monde. Et nous avons donc gagné comme ça, et Toulouse-Lautrec m'a demandé de porter le pli à Addis Abeba, et par une suite de diverses, à Addis Abeba, j'ai dû faire une conférence sur l'archéologie égyptienne, tout ça plus aux autorités éthiopiennes, et finalement, sans que je le sache naturellement, l'empereur a demandé que l'on lui dépêche quelqu'un, et plus spécifiquement moi, dont les ministres lui avaient parlé, à la suite de cette conférence, pour créer un service d'antiquité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, alors, dans une autre Éthiopie, le quiproquo sûrement a joué aussi. Je me suis retrouvé en Éthiopie, où pendant 5 ans, je suis allé, j'ai reçu la chaire de Strasbourg en même temps.
Vous avez en fait créé une section d'archéologie là-bas.
J'ai créé une section d'archéologie en Éthiopie.
Est-ce que vous avez été témoin en Égypte du coup d'État des officiers libres ou pas? Ou vous n'étiez pas en Égypte en 52
Vous étiez en Éthiopie. Le départ de Farouk, j'étais moi en vacances en France, France, comme la plupart d'ailleurs des égyptologues et des Français résidant en Égypte. Et par conséquent, nous avons su que naturellement le roi était chassé. C'était le régime de Néguib qui est resté plusieurs mois au pouvoir. Et de Néguib, un nouveau coup d'État, comme vous le savez, a mis Nasser au pouvoir. Alors... très rapidement, nous avons été mis dehors de l'Égypte. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois, nous avions eu déjà des ennuis précédemment. Mais enfin, là, c'était plus sérieux. Mais j'étais moi déjà, à ce moment-là, arrivé à Strasbourg, où je suis resté de 1953 à 1963.
Je vous propose de marquer une courte pause musicale et de retrouver dans quelques instants notre invité Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Retrouvons Jean Leclan dans l'émission En habit vert qui évoque pour Canal Academy son parcours d'égyptologue. Jean Leclan, de retour en France après votre séjour à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, vous enseignez à l'Université de Strasbourg comme professeur d'égyptologie pendant 10 ans, de 1953 à 1963. En 1955, vous soutenez votre doctorat et puis en 1954, vous publiez également l'enquête sur les sacerdoces et les sanctuaires égyptiens à l'époque dite éthiopienne, la 25e dynastie dont vous nous avez parlé tout à l'heure, qui est une somme et fait la démonstration de vos grandes capacités d'égyptologue dès ce moment-là. Alors, entre-temps, vous suivez également une campagne de fouilles. Pendant ces années d'enseignement, vous ne cessez de faire des allers-retours entre l'Égypte et la France, et vous suivez une campagne de fouilles franco-italienne sur le site de Soleb, qui est un village un petit peu isolé. Est-ce que vous pourriez d'abord nous décrire un petit peu les vestiges de ce site, du grand temple d'Amenophis III?
Pendant le développement, moi, de mon propre parcours, il se trouvait que petit à petit, les problèmes posés par la Nubie, précisément, qui était voué à la submersion sous les eaux au lac Nasser, menaient vers les curiosités, vers le Soudan. Et on savait qu'au Soudan, Amenophis III, le grand constructeur particulier de Louxor, Amenophis III avait dressé un temple, le temple de Soleb. Si vous voulez, ce temple de Soleb, c'était dans une région particulièrement difficile d'accès, puisqu'elle est coincée entre la troisième et la seconde cataracte. On l'atteignait à partir de Wadi Halfa au nord, par un terrible désert qui s'appelle le Batn el Hagar, le ventre de pierre, une région d'une solitude totale, pour gagner ensuite des petits bassins qui sont aussi accessibles, mais à partir du sud, à partir de la zone de la troisième cataracte, d'une petite ville locale qui s'appelle Dongola.
Alors, quelle était la particularité de Soleb, justement?
Ce Soleb, c'est d'être un temple dressant encore quelques colonnes dans une solitude absolument admirable.
D'une beauté époustouflante, je crois que
c'était absolument, absolument merveilleux, parce que j'ai fait 17 campagnes de fouilles.
Je crois que ça a duré moins 20 ans.
Voilà, ça a duré 20 ans. 17 campagnes, et dans une mission franco-italienne, où mon ami Robichon s'était replié, puisque nous avions des difficultés, comme vous le savez, avec l'Égypte de Nasser à ce moment-là. On s'était donc replié au Soudan dans une mission qui battait d'ailleurs le drapeau italien, puisqu'il était financé par Mme Michela Schiff-Giorgini, une personne absolument admirable, d'une ouverture d'esprit extraordinaire, qui était l'épouse d'un très riche banquier italien. Et avec Michela et Robichon, nous avons fait un trio. Vous avez passé pendant 17 ans. Au début, je passais 3 mois à Soleb. À la fin, j'étais pris par d'autres obligations. J'y passais plus qu'un mois, un mois et demi. Bon, j'ai passé par conséquent de très nombreux mois à Soleb, à fouiller ce temple, que nous pouvions, comme c'est dans le sud total, descendre jusqu'aux fondations. Vous voyez, nous retrouvons avec Robichon l'étude des fondations. Et là, nous pouvions descendre impunément, puisque nous rebouchions après, naturellement, nous restaurions le temple au fur et à mesure, nous remontions des colonnes, etc.
C'était très libre.
C'était mais admirable. Et en plus, alors, en plein milieu du bien, c'est-à-dire dans un pays où il y avait, où c'était nous qui étions les conseillers, si vous voulez, du petit village de Soleb, qui était autour de nous. Il y avait d'ailleurs presque pas d'hommes. Les hommes allaient travailler dans le golfe pour gagner de l'argent. Il y avait donc les femmes, les enfants, les vieillards. Nos travailleurs venaient sur 50 à 100 kilomètres en amont et en aval sur le Nil. Il y a de temps en temps des petits hameaux. Et ces gens savaient quand nous venions et par conséquent se rassemblaient là. Tout ça ne parlant que nubien, d'ailleurs, plus que l'arabe. Arabe et nubien et arabe mêlés. Et c'était absolument passionnant, la vie villageoise aussi. Tous ces aspects-là, au point de vue humain, c'était merveilleux. La découverte de la situation nubienne, toujours vivante,
toujours vivante,
présente.
Presque intacte, c'est un peu ça
qui est merveilleux. C'était des confrontations face à face, avec les reliefs, etc. C'était absolument merveilleux. Les Nubiens sont des gens extrêmement beaux. Et en plus, dans ce temps-là, ils étaient tellement à l'abri des perversions de ce que nous appelons, nous, la civilisation, que jamais, pas de serrure. Voyageait à dos d'âne le long du Nil, Mais je ne payais jamais, l'argent n'avait pas cours.
L'hospitalité terrestre.
De temps en temps, on savait que j'avais passé tant de nuits à tel endroit, donc on faisait parvenir une somme pour couvrir les petits frais, etc. Mais tout ça, c'était absolument. Tout était consacré au travail sur le temple de Solèb, et nous avons abouti à une énorme publication, à 6 volumes maintenant de parus, et c'est une publication fondamentale pour l'égyptologie. Encore mal connu parce que les gens savent que ça existe, mais toute la documentation du Soudan n'est encore pas parfaitement intégrée par le monde égyptologique. Alors que nous disions, que nous continuons à dire, mais un véritable égyptologue se doit de connaître aussi les antiquités du Soudan qui sont considérables et qui, naturellement, se sont beaucoup développées. Tout le monde connaît les grandes découvertes que Charles Bonnet a faites à Kerma ces dernières années. De statuaire de la 25e dynastie, il a trouvé 7 nouvelles statues absolument admirables, des chefs-d'œuvre d'art universel.
Alors, toujours sur le Soudan, à quelques kilomètres, il y aurait beaucoup à dire.
Sur le temple de Solèb, et aussi tout ce qu'il m'a apporté au point de vue personnel, au point de vue humain, j'ai passé là vraiment
des moments très heureux.
Des années merveilleuses. Mais en même temps, naturellement, j'assumais mon enseignement, d'abord à Strasbourg, puis après le décès malheureusement très prématuré de Jean Sainte-Fergerno, j'ai reçu la chaire de la Sorbonne et avec l'obligation, là, de m'associer avec un autre égyptologue bien connu, fameux, c'est Jean-Philippe Loher, à Saqqara, qui m'a amené à Saqqara convertir à autre chose, l'étude des textes des pyramides.
Voilà, donc effectivement, là vous avez 43 ans quand vous succédez à Jean Sainte-Fergerno qui meurt brutalement, suite à un décès brutal en 1963. Et l'année suivante, vous devenez également directeur d'études à l'école pratique des hautes études, c'est-à-dire que vous avez la charge d'une double chaire. Et vous allez donc rester jusqu'en 79 à la Sorbonne et jusqu'en 1990 à l'école pratique des hautes études.
L'école des hautes études, ça c'était très intéressant. On a créé l'école des hautes études à la particularité que les chaires ne sont pas fixes, on peut les modifier, etc. Et là, on a créé pour moi un enseignement tout à fait spécial sur l'égyptologie en dehors de l'Égypte.
C'est-à-dire d'une part ce qui correspondait à vos travaux et à votre grande curiosité.
Homéroïtique d'une part, j'ai eu la seule chaire qu'il y avait au monde d'homéroïtique. Et c'était absolument merveilleux, j'ai fait là l'inventaire des textes homéroïtiques qui a abouti ensuite à un énorme répertoire de plus de 1000 textes. Et d'un autre côté, du côté du Nord, la diffusion des monuments égyptiens à travers la Méditerranée, c'est-à-dire les cultes zizyaques. J'avais patiemment noté au fur et à mesure, chaque fois qu'on signalait un petit toucher petit, une statue funéraire, ou une stèle, ou un témoignage qui prouvait qu'il y avait eu des gens qui avaient adoré, que ce soit en Italie, que ce soit jusque sur le Limes, jusque la frontière sur le Rhin, jusque sur la frontière de l'Empire romain du Danube, il y avait des gens qui adoraient les divinités égyptiennes, c'est-à-dire Isis d'une part, Osiris, mais surtout Sarapis, le dieu Horus, tout ça pourquoi ? Mais parce que c'était des gens qui pensaient que la puissance d'immortalité des documents égyptiens était telle, il y avait une telle charge émotive d'immortalité, de triomphe sur la mort manifestée par la culture égyptienne, qu'ils étaient des adorateurs d'Isis, d'Osiris ou de Sarapis. Voilà, et j'étais donc chargé, d'une immensité qui était tout ce qui était égyptologique en dehors de l'Égypte.
Alors, parmi toutes ces fonctions, vous décidez de poursuivre l'œuvre de Gaston Maspero autour des pyramides à texte qu'il avait commencé à faire déblayer dans les années 1880, ce que vous appelez d'ailleurs la plus ancienne littérature funéraire de l'histoire. Et j'aimerais que vous nous présentiez ces textes et qu'à cette occasion, vous nous parliez aussi un petit peu des difficultés que rencontrent les archéologues sur les sites, sur la fragilité des sites et sur ce travail de continuité entre les grands orientalistes.
Un travail magnifique lorsqu'il était arrivé en Égypte en 1880 pour succéder à Mariette. Maspero avait immédiatement compris qu'il y avait des pyramides de l'ancien empire égyptien, de la 6e dynastie, qui comprenaient des textes. Ces chambres étaient gravées. Ce que Mariette a soutenu
Donc les parois sur les blocs,
oui,
effectivement.
Mais Mariette, dans ses dernières heures, au moment où il disparaissait, que Maspero allait venir lui succéder, Mariette a reconnu qu'effectivement, c'était des textes qui étaient dans les pyramides. Et Maspero, naturellement, est entré dans ces pyramides, mais n'avait pas les moyens matériels de dégager l'intérieur de ces pyramides. Il a copié les textes encore subsistants par lambeaux sur les parois. Et il a très rapidement, et c'est vraiment génial ce qu'il a fait, il ne disposait ni de dictionnaire, ni de grammaire, d'aucun instrument de travail de base. Il en a donné la publication et une traduction qui ensuite a été perfectionnée par les travaux de savants allemands. Mais le travail de base, c'est celui de Maspero. Par conséquent, tout ça sommeillait, comme beaucoup d'autres choses en Égypte, quand Pierre Lacot, directeur des Trésors d'Antiquité, savait qu'il y avait des textes qui traînaillaient autour de ces pyramides, que Maspero n'avait pas tout récolté. Mm-hmm. Et c'est Saint Fargano qui a commencé le travail, mais il a commencé simplement à pirer de Téti en première campagne préliminaire, et il est décédé. Et Loher s'est trouvé seul, là. Loher, qui ne pratiquait pas les hiéroglyphes. Loher m'a demandé de venir avec lui, m'expliquer que nous avions cette concession extraordinaire et qu'il fallait l'exploiter. Donc je me suis mis, j'avais d'ailleurs fait un travail, dans mes premiers travaux d'égyptologie, j'avais fait un travail sur les textes des pyramides avec Saint Fargano. Donc je connaissais un petit peu la problématique des textes des pyramides, naturellement.
Alors effectivement, de 1966 à 1990, parce que c'est une aventure qui va durer très longtemps, vous êtes directeur de ce qu'on appelle l'URA, des pyramides à texte d'Égypte au CNRS, mais surtout vous avez dirigé la mission archéologique française de Saqqara pendant ces années. Tout ça aussi en collaboration avec le service des antiquités égyptiennes. Donc c'est vraiment une entreprise particulière, internationale, de tous les efforts, entrepris dès le 19e siècle. Là, il y avait un défi.
Il fallait connaître ces pyramides, il fallait dégager l'intérieur de ces pyramides.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le jour où justement vous êtes glissé avec Jean-Philippe Loher dans la pyramide de Pépi Ier ?
Ah oui, qui était
demeuré à l'abandon.
Donc Téti avait été ouverte avec Saint Fargano, j'ai donc poursuivi le travail de Saint Fargano, mais l'après-midi, nous étions dans la maison à Saqqara, nous passions comme deux ermites, car dans ce temps-là, il n'y avait ni électricité, puis pas de frigidaire, il n'y avait rien du tout. Loher vivait comme un ermite, là, et donc le soir, nous étions avec un petit brasero qui nous enfumait, une lampe à pression entre nous deux. Vers 11h30, minuit, je disais, moi, il faut aller se coucher, parce que demain matin, ça va être bonne heure, etc. Et donc, nous avions exploité Téti, mais l'après-midi, nous nous promenions. Et là, il y avait un monticule devant nous, et je savais que c'était la pyramide de Pépi Ier, où Maspero était descendu, où il avait copié des fragments de texte, nous savions que s'il y avait encore beaucoup de texte dedans, donc fallait la vider, mais nous sommes glissés quand même. Nous sommes descendus, on a repoussé quelques pierres, et puis finalement, avec nos lampes électriques, on s'est glissé là-dedans. Nous avons rampé dans la descenderie, puis le couloir qui était long, obstrué de tas de trucs, de tas de blocs éboulés, se disant, bon, si jamais...
C'était peut-être un peu dangereux, quoi.
Ça s'écroule, c'est la pyramide entière qui tombe sur nous, et nous sommes arrivés, vous serez aperçus comme quelque chose de vie. C'était une très faible lueur. Et cette lueur bougeait naturellement parce que c'était cette lumière qui bat des interstices à travers tout l'amoncellement de la pyramide et le chaos des blocs à l'intérieur se glissait et qui, avec le dépassement du soleil, bougeait un tout petit peu imperceptible. C'est une sensation étrange. Et devant nous, avec l'Europe électrique, c'était des textes et des textes et des textes sur des fragments, les uns très gros, les autres tout petits. Et par conséquent, on a décidé qu'on allait de nouveau, cette fois-ci, se lancer dans Pépi Ier. La campagne suivante, alors, on a amassé le matériel.
Donc là va commencer
une nouvelle aventure.
Le long travail de recensement, de reconstitution, de traduction, d'analyse, de restauration.
De sortie des blocs, parce qu'il a fallu trouver autre issue que l'issue de ce cheminement.
De la descenderie, voilà. Et puis c'était pas possible, si
on vous a crevé êtes passé le plafond, qui était formé de trois énormes dalles. Ah, pesant chacune plus de 30 tonnes, trois rangs, les uns au-dessus des autres, sommes glissés par là, et ils ont commencé à sortir des milliers et des milliers de fragments.
Voilà,
ce sont
des milliers de fragments, effectivement.
Il y en avait plus de 3000 qui étaient inscrits. Et par conséquent, on a fait le puzzle tout l'été, avec Mademoiselle Berger et Mademoiselle Pierre, avec mes deux assistantes, nous avons passé tous les étés à jouer à ce puzzle.
Ah
et
oui.
Finalement, on a réussi à faire le puzzle et à publier, mais seulement... Il n'y a pas très longtemps.
Il n'y a pas très longtemps, en 2000.
En 2000.
Mais bon,
en
c'est
2000,
une très belle aventure.
Résultat final de publication.
Alors, je voudrais que vous puissiez nous expliquer un petit peu la distinction entre les pyramides à texte et ce qu'on appelle le texte des pyramides.
Alors,
parce que
les pyramides à texte sont donc ces pyramides
de choses différentes.
De la fin de la 5e et de la 6e dynastie, qui sont celles où on a récolté des textes. Alors, on savait que...
Et quelle était leur fonction ?
Leur fonction est simple, c'était d'assurer l'immortalité à Pharaon.
Bien sûr.
Mais assurer l'immortalité à Pharaon, il pouvait être immortel de plusieurs façons.
Donc,
d'abord, le texte majeur, il est gravé au pied, ça nous le savons, ayant vidé la pyramide de Pépi, la pyramide de Mérénré, et ensuite, nous avons trouvé, et ça c'est la grosse découverte, qu'il y avait une reine... qui avait aussi des textes des pyramides. Mais ça, c'est beaucoup plus récent. Au départ, nous avions donc tous ces textes que, naturellement, j'ai mis en parallèle, et j'ai découvert qu'il y avait au pied du sarcophage, dans toutes ces pyramides, le même texte. Et ce texte est un texte admirable, puisqu'il dit « Ô Pharaon, ce n'est pas mort que tu t'en es allé, ô Pharaon, c'est vivant que tu t'en es allé. » C'est-à-dire que la mort, voyez-vous, la mort est sublimée. La mort, c'est une forme de la vie. C'est simplement une autre forme de la vie qui peut d'ailleurs, je vais vous l'expliquer dans un instant, se faire de différentes façons pour Pharaon. Mais c'est un privilège réservé au Pharaon. Ce n'est pas mort que tu t'en es allé. Pourquoi ? Mais ce serait long de vous expliquer comment les Égyptiens ont réussi même à supprimer le temps. Le temps tel que nous le connaissons, nous, cette succession, il n'y a pas... dans l'histoire égyptienne, de succession de cette sorte. Les Égyptiens n'ont le sentiment et ne notent que des règnes. Et ces règnes sont tous indépendants les uns des autres. On ne sait pas quand l'un se termine, parce que nous connaissons simplement la plus haute date de vie d'un pharaon, la plus haute date de règne, mais il a peut-être encore régné 3 ou 4 ans après, et nous n'avons pas encore retrouvé la trace de ces règnes. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a tant d'incertitudes dans la chronologie égyptienne, parce qu'il n'y a pas une continuité, sauf des tableaux qui nous montrent des cartouches de pharaons les uns se succédant. Mais ce sont des continuités refaites à travers les temps pour assurer le culte des pharaons défunts. Par conséquent, voilà des Égyptiens qui suppriment le temps. C'est comme ça, c'est liquidé, et il n'y a plus de mort, pour en parler. Et c'est pourquoi la situation égyptienne est très joyeuse. C'est pas du tout un monde de croque-mort que nous fréquentons avec la situation égyptienne. Tous ces gens ont un idéal, d'ailleurs qui est celui même des scènes gravées dans les mastabas, fais un jour heureux. Ils ont eu la chance, appartenant aux classes dirigeantes de la société, d'avoir généralement des vues assez confortables, mais ces vies confortables vont continuer pour l'éternité, aucune raison. Donc fais un jour heureux. Puis ensuite dans l'au-delà, c'est d'abord Pharaon qui connaît cette éternité par la vie éternelle. Mais ensuite, à travers la révolution d'affaires intermédiaires, lorsque le Moyen-Empire va s'instituer, tous les Égyptiens vont devenir des Osiris. C'est-à-dire que tous, ils vont d'une façon ou d'une autre participer aussi à la vie éternelle, à ce que nous appelons la vie éternelle. Alors comment pour Pharaon, son ancien empire, on la conçoit ? D'une part, il est là, dans son cercueil, il a sa tête au nord, il est couché sur son flanc, et il a d'abord une éternité par le fait que sa bouche est à côté des tables d'offrande. Il y a des tables d'offrande qui représentent tous les mets avec leur quantité. Par conséquent, dans l'au-delà, il peut déjà, même dans son sarcophage, déjà se nourrir. D'un autre côté, on lui dit, non, ce n'est pas mort que tu t'en es allé, c'est vivant. Mais il y a une première éternité, s'il disparaît vers l'ouest, il va vers la terre des morts. Et il a de très nombreuses formules qui lui permettent de circuler à travers le monde des morts. Alors lui, oh, tu es au milieu de tes suivants qui t'acclament, tu es le roi, tu as le pouvoir, tu as, etc. Ce qui sait qu'il est dans le monde des morts. Et après tout, c'est pas très rigolo, le monde des morts. Et n'importe que comment, quand il a traversé le monde des morts, le monde de la nuit, le jour va renaître. Alors comment renaît le jour ? Il renaît avec le soleil. Et par conséquent, Pharaon, dans son regard, l'est. Et il a ses pensées tournées vers l'est. Et là, les autres prières qui disent « Ah, puis-je être dans la barque du soleil ? Puis-je être comme le soleil dans la barque du soleil ? Puis-je être simplement dans la barque du soleil ? Puis-je même, il dit à un endroit, si la barque prend haut, je serai là et j'écoperai. » Et il y a hiéroglyphe qui représente une calebasse avec un pouce, qui signifie « écoper ». Et ce verbe n'est pas connu dans l'histoire égyptienne, simplement en copte. Il revient en copte, il est connu par cette figuration de l'Ancien Empire et en copte. Donc c'est le verbe « écoper », il veut bien être un matelot à bord de tout, c'est d'être dans la barque du soleil. À ce moment-là, avec le soleil, il va monter dans le ciel, puis le soir, il va disparaître dans l'au-delà. Donc retour au cas numéro 1, il sera dans le monde de l'au-delà. Mais il aura vécu glorieusement comme le soleil. Mais en cours de route, quand il se lève pour faire ce trajet, il s'en va vers le centre, et là, il tourne vers la gauche, et il retrouve le chemin de son inhumation. C'est-à-dire qu'il va cheminer, et quand il va arriver, il a eu une descenderie pour y être. Mais cette descenderie, il va la remonter. Et cette descenderie, elle est à 28 ou 30 degrés. C'est-à-dire la latitude même de la polaire. Et par conséquent, il va se trouver dans l'axe du monde, et il va, et alors là, il va être une étoile. Attention, une étoile impérissable, une étoile qui ne connaît pas la fatigue, une étoile qui tourne toujours parce qu'elle est sur l'axe solaire. Par conséquent, il a là une éternité stellaire. Donc une éternité osirienne, une éternité solaire et une éternité stellaire. Vous allez me dire, mais laquelle ? Mais tout ensemble, parce que les anciens Égyptiens sont beaucoup plus riches que nous. Et on retrouve là l'Afrique. Vous savez très bien que nous sommes des disciples d'Aristote. C'est-à-dire que pour nous, A et A, B et B. Ce qui est tristounet, c'est triste. Ouais, c'est très amoindrissant. C'est très utile. Les mathématiques sont fondées là-dessus. Et toute notre culture est fondée là-dessus. Hein? Nous sommes le pays de Descartes. A et A, B et B. Le pays d'Aristote et de Descartes. Et non, là, A peut être B, peut être C, peut être D. Ça dépend de quel point de vue on se place. Et par conséquent, vous voyez la richesse de ce monde d'associations diverses qui vont faire qu'à travers le monde, il y aura des longues chaînes de symboles. Certaines choses sont affirmées dans le règne végétal avec telle et telle plante qui sont affectées à telle et telle fonction. Dans le règne animal, au lieu de prendre une plante, vous prenez un animal, vous prenez un ibis, vous prenez un chacal et vous avez un animal qui est lié à telle forme divine, à telle fonction divine. Mais vous pouvez vous exprimer par les pierres. Les pierres ont leur langage. Et tout ça, c'est un univers qui est tissé par des séries de symboles qui s'entrecroisent. Alors, vous voyez la richesse extraordinaire d'expressions que nous connaissons par le temple, par les textes hiéroglyphiques. Si l'on n'a pas ça à présent à l'esprit, on ne comprend rien du tout, car ces hiéroglyphes, justement, peuvent tantôt, je peux écrire le dieu Thoth, moi, soit par un animal, soit par une plante. Ce sera toujours l'entité Thoth avec les fonctions de Thoth. Alors, vous voyez comment nous arrivons rapidement à la compréhension d'un monde totalement différent d'une autre, mais combien plus riche.
Alors, sur toujours les textes des pyramides, la grande interrogation, c'était de savoir si les reines, les épouses, allaient bénéficier, ou si leurs appartements funéraires étaient également dotés de textes de pyramides.
Alors, nous savions qu'ils étaient dotés parce qu'un Suisse avait travaillé dans les 1930.
Et pour savoir si justement elles avaient grande égalité.
Il avait trouvé que sous le règne de Pépi II, il y avait trois reines qui avaient des textes, des pyramides. Donc, on savait déjà que les reines pouvaient avoir des textes. Mais il fallait savoir avant si les grands pharaons de la sixième dynastie, les Pépi, les Mérenré, avaient des reines. Alors, nous sommes donc mis à chercher autour de Pépi Ier pour savoir quelles étaient ses épouses, etc. Et nous avons découvert 2000, six reines nouvelles.
Oui. Hein,
les vestiges de six reines nouvelles, dont une qui s'appelle Ankhnès Pépi et la particularité, vous allez me dire, elle avait un mur d'enceinte beaucoup plus gros. Les reines avaient généralement une coudée, les rois deux coudées, la reine avait trois coudées. Donc c'était une forte femme, voyez-vous.
Hein, ça, oui, elle a dû jouer aussi.
Qui vous permettent déjà d'avoir une idée, voyez-vous, de la grandeur du personnage. Et effectivement.
Mais elle a joué un rôle
fondamental. Après, on découvre qu'elle était l'épouse de Pépi Ier. Elle était l'épouse du successeur de Pépi Ier, et elle était la régente sous le petit Pépi II. Par conséquent, vous voyez, pendant trois règnes, c'est elle qui fait la politique, et par conséquent, elle avait bien mérité d'avoir des textes des pyramides.
Toujours sur ce beau défi, vous avez, je crois, sur le plan méthodologique aussi, apporté quelque chose sur l'endroit où étaient justement inscrites ces formules dont vous, que vous avez évoquées. Vous avez remarqué, vous l'avez déjà dit un petit peu, qu'à certains emplacements, on retrouvait toujours les mêmes formules. Et vous avez en quelque sorte aussi déterminé comme ça un espace sacré. Et ça, c'était important. Est-ce que c'est votre formation de géographe là qui a ressurgi sur ce sens de l'espace et du territoire?
De topographe.
Aussi,
la topographie,
également.
Hein, puisqu'on accorde dans les temples même, il y a des confrères, des collègues qui ont établi une grammaire des textes en fonction des emplacements des textes dans les temples. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été les mêmes? Et naturellement, moi, faisant le parallèle, si vous voulez, ayant un système même automatique, un système de numérotation le même par rapport aux parois, je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait en particulier les incipits des débuts des parois et les textes des débuts des parois. Et les textes de la fin se trouvaient aux mêmes endroits canoniques. Par conséquent, c'était des textes particulièrement importants. Mais il y a le texte du grand départ, mais il n'est pas... Parce que par les façons de publier, les façons savantes, les Égyptologues n'ont pas compris le sens. Moi, j'ai vécu à l'intérieur de la pyramide pendant des années et des années. J'étais là, j'étais souvent couché dans le sarcophage, parce que j'étais comme ça à l'abri des puces, des mauvaises odeurs, etc. J'étais là, les ouvriers me disaient « Ah, tu es le pharaon ». Je disais « Non, je suis comme le pharaon, une manse, parce que moi, je suis vivant, le pharaon, oui ». Il dit qu'il est vivant, mais moi j'y suis bien, tu vois, je suis bien là. Alors, dans ces conditions, je savais qu'il y avait des emplacements consacrés pour les textes, alors ça c'est un élément extrêmement important pour la compréhension de ces textes.
Alors, en 2001, justement, a été publié le texte des pyramides de Pépi Ier.
Il y a des jeunes égyptologues, particulièrement bien formés, particulièrement tardants au travail, etc. Et par conséquent, c'est à eux de travailler maintenant. Hein.
Voilà. Alors, je vous propose de marquer une courte pause musicale et de retrouver dans quelques instants notre invité Jean Leplan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Retrouvons Jean Leclan dans l'émission En habit vert qui évoque pour Canal Academy son parcours d'égyptologue. Alors durant les années 60 et 70, vous avez publié des ouvrages fondamentaux dont en 1961 le fameux Montouémat, ce travail qu'on a évoqué tout à l'heure commencé en 1957 et qui concerne un haut dignitaire aux fonctions sacerdotales et administratives, militaires. Et là, vous avez également répertorié tout un matériel archéologique et puis également de nombreux documents. Qui était ce personnage? Et pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce personnage? Quel a été le déclic?
Montouémat.
Parce que vous avez recensé toutes ces statues, les statues agenouillées en pied, les statues cubes.
Si vous voulez, au point de vue méthodologique, il se trouvait qu'on étudiait règne par règne les grands pharaons. C'était un cadre normal d'études. Et il se trouvait que, par mes recherches sur la 25e dynastie, je mettais en valeur qu'il y avait, à côté du pharaon, une prêtresse qui s'appelait la divine adoratrice, qui était généralement la nièce ou la fille ou la nièce d'un des pharaons de cette époque. Bon, cette divine adoratrice avait une cour autour d'elle, dans la région thébaine. Et puis, il y avait des personnages qui apparaissaient dans des inscriptions, et c'était intéressant de voir si une monographie de grands personnages était possible.
De grands dignitaires.
De grands dignitaires. Et mon choix s'est porté sur Mentou Emhat,
oui,
qui était un dignitaire de cette époque éthiopienne, de cette époque couchite,
voilà,
dont on connaissait quelques statues. Alors j'ai donc groupé ces statues. Il y en avait une qui était particulière. C'est un bonhomme chauve, avec une couronne de cheveux particulièrement saisissante, et derrière des titres et des inscriptions difficiles. C'est une statue très très célèbre, Mentou Emhat, mais qui est un petit peu différente des autres, qui pose problème. Et il fallait voir si réellement elle appartenait bien à ce Mentou Emhat, de quelle façon. Et puis en groupant le petit matériel, toutes sortes de petits matériels divers, on réussissait à préciser un peu, pour autant, car la situation égyptienne savait, nous faisons de l'histoire selon nos préoccupations à nous. Mais la documentation égyptienne, jamais les Égyptiens ont eu le sentiment de notre histoire, parce que je vous ai dit qu'ils n'ont jamais eu la sensation du temps qui est la nôtre. Donc la perception de l'histoire est totalement différente pour que la nôtre. Et tous ces monuments, ils n'en ont jamais fait pour la postérité, pour que nous, nous les lisions, ils les ont fait pour les dieux.
Mm-hmm.
Hein, c'est un dialogue de ces gens qui se présentent avec leur matériel, mais face aux dieux. Donc c'est conçu dans des perspectives. Et on ne peut pas écrire les mémoires de Mentou Emhat, ça n'existe pas. Enfin, il ne se confie jamais. Quand il se confie, il reprend les formules consacrées. J'ai aidé la veuve, j'ai nourri l'orphelin, je n'ai pas fait de mal à mon contemporain. Ce sont ces formules-là, les confessions. Mais ce sont des confessions stéréotypées qui, automatiquement, lui gagnent l'au-delà. N'importe comment, il gagne l'au-delà, puisqu'il a fait des monuments qui ont vaincu le temps. Par conséquent, voyez-vous, il y a bien un triomphe de la part des anciens Égyptiens. Hein. Nous les connaissons encore, nous allons au musée du Louvre, et bon, et nous communions avec eux. Par conséquent, dans un certain sens, même dans notre optique à nous, ils ont gagné. Ils ont gagné. Enfin, pour eux, ça ne les intéressait pas, ce genre. Mais ils ont gagné vis-à-vis des dieux. Donc, ce Mentou Emhat, j'ai coupé son matériel. Et depuis, il y a des collègues qui ont écrit sur Abba ou sur d'autres grands personnages.
Voilà, vous avez ouvert là aussi
une voie. En faisant le style de la monographie,
oui,
grand dignitaire par, voilà, grand dignitaire, et qui est rentable.
Voilà, et ne serait-ce que pour lui, effectivement, même le matériel est éparpillé entre Berlin, le Caire, les sites.
Nous avons, avec
Brooklyn,
Barguet,
le musée de Brooklyn,
commencé à regarder la tombe de Mentou Emhat.
Ah oui.
La tombe de Mentou Emhat elle-même a été très très pillée.
Oui.
Il y avait des milliers de fragments par terre, etc. C'était encore une autre carrière, voyez-vous. Pour un égyptologue, c'est pas le travail qui manque. Hein,
non.
Définir des sujets,
c'est... Et les photographies de l'époque, vous aviez un photographe avec vous?
Non,
c'était vous-même.
Oui,
donc
bien,
c'est vraiment... Il y a un travail extrêmement minutieux.
Naturellement, quand je me suis spécialisé, j'ai fait venir des photographes. Mais dans ce temps-là...
Les clichés sur les planches qu'on voit, tout ça, c'est vous qui avez réalisé.
C'est après, c'est venu à la génération suivante, hein, avec des équipements. Nous faisions absolument tout, depuis le ravitaillement, jusque la copie des textes, la photographie des textes, etc.
Alors,
nos missions n'étaient pas, dans les débuts, bien organisées de ce point de vue-là, point de vue technique.
Je voudrais qu'on aborde également, dans votre long parcours, Jean Leclan, votre arrivée à l'Institut de France, d'abord comme académicien, au fauteuil de Jacques Vandier en 1974, et puis qu'on évoque aussi toute votre action en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Quand vous avez été élu à l'Académie en 1974, comme tous les académiciens, comme beaucoup d'académiciens, vos amis, par le comité de l'épée, vous ont offert une épée. Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
Ah oui, mon épée est une très très belle épée.
Oui.
Très très belle, la poignée... C'est justement une colonne Wadj dans une pierre verte, une pierre qu'on trouve, que, paraît-il, que en Russie. Et cette pierre, merveilleusement travaillée, j'ai eu deux très bons conseillers pour faire mon épée, qui étaient d'une part Raymond Corbin, le graveur de l'Institut, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et l'enfant, qui était le meilleur joaillier de Paris, et qui ont travaillé avec beaucoup de passion à cette épée. Donc la poignée, c'est une sorte d'amazonite, si vous voulez, une pierre verte, très belle. Et Wadj, c'est le papyrus, ça signifie le papyrus, le renouveau. Par conséquent, je tiens en main, et la couleur verte...
De la bivère.
Les textes des pyramides, justement, sont peints en vert, qui est la couleur d'une perpétuelle renaissance, si vous voulez. Parce que, si vous voulez, c'est toujours le même truc, c'est pas une éternité morte, c'est une éternité vivante, c'est ça qui est important. Et par conséquent, le Wadj, c'est le recommencement perpétuel, de même que dans la nature, bien, il y a continuellement des pousses qui ressurgissent, c'est ça l'idée de Wadj. C'est une forme d'éternité, si vous voulez, d'éternité végétale. Et comme je vous le disais, que les symboles égyptiens sont de longues lignes tracées à travers l'univers, ça c'est l'expression à la fois végétale, celle du papyrus, Wadj, et celle aussi de la matière, c'est-à-dire la pierre verte, voyez-vous, tout ça, ce sont des gages d'éternité. Donc ça c'est la poignée, et il y a alors aussi un petit carré sur lequel vient s'appuyer la lame, avec de très belles incisions. Il y a là un lion, le lion de Soleb, une statue magnifique qui maintenant est au British Museum, mais qui venait de Soleb primitivement, de ce fameux temple du Soudan. Il y a le cartouche de Pépi Ier,
vous
donc
avez un pharaon
des textes des pyramides. Et puis il y a une Isis aussi, une très belle Isis, sur une barque, une Isis avec une voile, enfin qui est très très belle. Le lion, je suis né au mois d'août, par conséquent c'est aussi mon signe. Le lion. Et par conséquent, tout ça, si vous voyez, ce sont des signes d'une vie exaltante, et sur la lame est gravé l'alphabet méroïtique. Voilà, si vous voulez, tout le symbolisme dans lequel... Et enfin, et à mon épée, il y a deux uris, un double urius, magnifique, avec des yeux en cornaline, deux urius en or, et qui symbolise la royauté double des pharaons Couchites, car les pharaons Couchites ont la particularité, c'est la seule dynastie, d'avoir non pas un urius au front, mais d'avoir deux uris. Et l'on pense que c'est parce qu'ils sont doublement rois, rois d'Égypte et du Soudan. Le symbolisme de mon épée.
Ah,
c'est
un monument en soi, ça. Oui, alors on va évoquer un petit peu votre charge également en tant que secrétaire perpétuel, et même si ça fait déjà depuis 1983 que vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, là déjà vous avez sur toutes ces années également mis en œuvre des chantiers, d'autres chantiers dire, sur d'autres domaines.
Vous savez, je n'avais pas conçu comme cela mon destin, et... Sans fausse modestie, j'allais en 83, ce sont mes confrères, qui la plupart d'ailleurs c'était mes maîtres, j'étais à ce moment-là nettement plus jeune que la plupart, donc la plupart avaient été mes maîtres ou des collègues plus âgés que moi dans les postes que j'avais occupés, et vraiment, ils ont beaucoup insisté pour que je sois perpétuel. Moi-même, je me suis débattu en disant que j'avais de très gros chantiers, j'avais de très grosses publications et que ce n'était pas dans mon destin de m'occuper à Paris. À quoi ils m'ont répondu qu'il y avait des avions qui circulent à travers le vaste monde, ce que je faisais déjà auparavant, que pour le reste, c'était une charge honorifique et puis d'administration simple, etc.
En réalité, quand
j'ai commencé, en trois demi-journées, j'accomplissais ma tâche. Je vais vous dire maintenant... Je suis à plein temps,
oui.
Le samedi et le dimanche compris. Et par conséquent, c'est une très lourde tâche.
Vous avez élaboré les deux volumes du second siècle de l'Institut de France qui répertorient tous les académiciens des cinq académies de l'Institut de sa création. Enfin,
c'est-à-dire depuis... Il y a eu un premier volume qui a porté, fait par Franqueville,
oui.
Dans les années 1900, qui s'appelait le premier siècle de l'Institut de France.
Et
qui
vous avez fait
depuis...
le second.
Oui, depuis la création en 98, 1798 à 1898. Et là, moi, j'ai pris le relais avec le second siècle de l'Institut de France, c'est-à-dire 1898 à 1998.
Alors,
c'était une lourde tâche.
Oui, également. Vous avez aussi...
Mais j'ai été secondé,
hein, bien sûr, tout ça reste toujours
des tâches. Ce sont des tâches comme le dictionnaire d'Antiquité, ce sont des œuvres collectives.
Bien sûr.
Et je rends toujours le plus grand hommage à tous ceux qui ont bien voulu travailler avec moi, parce que ce sont des tâches qui sont lourdes.
Chaque année également, en tant que conservateur de la Villa Kyrillos, qui est oui, une des fondations de l'Institut, vous organisez des colloques
oui,
sur l'Antiquité.
Oui, ça c'est une fondation bien intéressante. C'est en 1905 et 1908 que Théodore Reynac, d'une part, qui était un homme d'une puissance de travail extraordinaire, à la fois un helléniste, très haute qualité, un sémitisant aussi, Théodore Reynac a accompli une œuvre admirable, il était l'un des trois frères, ce qu'on appelait les frères Je sais tout. Joseph, J, E-C-S, Salomon, et T, Théodore. Et le nôtre, c'est Théodore Reynac, c'est le plus jeune de ces trois frères qui ont été destinées éclatantes. Salomon Reynac était un servancier très très considérable. Théodore Reynac, donc, a acheté ce terrain à côté à Beaulieu-sur-Mer, une pointe, la pointe des Fourmis, et avec un architecte, le fils d'un rabbin de Nice qui s'appelait Pontrémoli, avec Pontrémoli qui ensuite est devenu membre de l'Institut, qui a fait beaucoup de constructions dans Paris, beaucoup d'hôtels célèbres de la fin du 19e, début du 20e, c'est construit par Pontrémoli. Tous les deux ont donc édifié cette villa, qui est en quelque sorte, si vous voulez, un résumé à la fois de Délos et de Delphes. Parce que Délos, c'est une île, oui. Avec une villa dans une île, et là, la pointe des Fourmis, c'est presque une île, d'une part, et Delphes, parce qu'en face de nous, avons la falaise d'Èze, comme les roches Phaidriades à Delphes. Par conséquent, si vous voyez, c'est un morceau d'Hellade qui est cousu sur le rivage de la France.
De la France.
Et par conséquent, voilà une très belle fondation que j'essaie d'animer en créant un colloque par an. Nous avons traité du théâtre grec antique, mais aussi des sujets, par exemple, il y a 2 ans, l'homme de l'Antiquité et du Moyen-Âge face aux calamités naturelles, à propos du séisme, du tsunami, et ensuite des tremblements de terre qui se sont succédés il y a 3 ans. Une autre année, nous avons traité aussi l'Antiquité classique vue par le Moyen-Âge. Mais vous, je cherche des thèmes comme ça, et cette année-ci, ça va porter la Méditerranée d'une rive à l'autre, c'est-à-dire, je commence à esquisser le thème des rapports entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, et aussi la position particulière de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire, finalement, l'expansion juive avec Alexandrie et les foyers juifs, et d'un autre côté, naturellement aussi, la présence palestinienne et arabe.
Vaste
oui,
sujet.
Ce sont des vastes
je
sujets.
Je vois que vous ne manquez
et
pas
je voudrais savoir justement
d'énergie
un petit peu,
encore
est-ce que
pour
la Méditerranée,
se lancer dans de nouveaux défis.
C'est une zone de concorde et une zone de contact ou est-ce que c'est une barrière?
Voilà. Une belle problématique. Contact ou barrière.
Difficile.
Mais vous êtes toujours partant pour les défis difficiles, monsieur Leclan. Alors, en 2000, eh bien, malgré toutes ces charges à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, vous réussissez à renouer avec votre première passion, disons, en publiant en 2000, très récemment, le répertoire d'épigraphie méroïtique, qui est un travail très méticuleux avec des fiches, il y a tout un répertoire.
J'avais fait grouper tous ces textes, j'avais d'immenses dossiers, d'immenses chemises, etc. Et j'ai trouvé, mais ça ce sont les hasards, un chercheur, un jeune chercheur, Monsieur Rilly. Et Rilly a bien voulu consacrer du temps à mettre au point ces différents dossiers, et nous avons pu publier ensemble, avec l'aide d'un troisième, qui s'appelle M. Carrier, nous avons tous les trois publié ce répertoire d'épigraphie méroïtique qui devrait permettre maintenant, avec les traitements par l'informatique, une fois tout ce matériel accumulé, nous pouvons le traiter par l'informatique, et par conséquent, nous pouvons peut-être avoir quelques heures, car le méroïtique, nous pouvons donner une transcription. J'avais pu, si vous voulez, savoir les noms de tous ces gens, leur lien de parenté, savoir aussi leurs titres, dans quelle ville ils exerçaient leurs titres, si c'était des titres religieux, de quel dieu ils étaient les prêtres, c'est-à-dire dresser un bottin mondain de l'Empire méroïtique.
Oui, mais c'est vraiment un catalogue.
Plus, car après, nous butons, sitôt que le texte devient un texte suivi, nous ne savons pas, parce que nous ne savons pas à l'heure actuelle encore à quelle langue appartient, mais Rilly a fait des progrès décisifs et Rilly réussit à placer le méritique dans un groupe de langues qui sont des langues qui se parlent entre l'Éthiopie et le Soudan actuel, des langues résiduelles. Faut faire vite, parce que
avant
certaines de ces langues n'ont plus que quelques milliers de locuteurs. Et Rilly, par conséquent, a consacré ces dernières années à des missions dans ces régions, on est aux confins d'Éthiopie
du Soudan. Des régions difficiles à agiter, en plus bouleversées.
Ça
fait partie du travail habituel des archéologues. Jean Leclan, dans le discours de votre leçon inaugurale au Collège de France, c'est un petit peu pour conclure notre entretien, vous repreniez une phrase de Champollion. Ma science égyptologique est assez avancée seulement pour entrevoir l'espace immense qui lui reste à parcourir avant de marcher sans obstacle dans le grand labyrinthe de l'écriture sacrée. Et vous disiez, vous avez reconnu le style sans égal de Champollion. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette interrogation ?
Sur cette interrogation, c'est que naturellement, depuis le temps de Champollion, nous avons fait beaucoup, beaucoup de chemin. En 1900, Maspero, qui est aussi un homme extraordinaire, car quand on s'engage dans ces recherches, on doit avoir aussi la pensée des grands ancêtres, et il y a des gens admirables qui veillent sur nos modestes pas. Maspero disait, en 1900, l'Égypte est à peine égratignée. À l'heure actuelle, je dois vous dire que rien que dans le grand temple dynastique de Karnak, nous connaissons qu'à peu près le tiers du temple de Karnak. Par conséquent, des découvertes les plus merveilleuses peuvent être faites. Mais je vous parlais du Soudan, mais le Soudan, alors là, nous commençons à peine l'exploration du Soudan, et chaque année, les quelques missions rares qui travaillent au Soudan apportent des butins, mais prodigieux. La même chose d'ailleurs dans le temple de Karnak. Dans le temple de Karnak, chaque hiver, se succèdent des découvertes, mais très importantes. Par conséquent, si vous voulez, disons bien que nous sommes simplement dans notre connaissance, dans des phases préparatoires, dans des phases d'exploration, et que par conséquent, nous avons encore, dans ces domaines merveilleux de recherche, de splendides découvertes à se faire devant nous.
Jean Leclan, merci beaucoup de nous avoir fait partager la passion de votre vie, l'égyptologie.
Eh bien, je vous remercie de m'avoir donné l'agréable occasion, personnellement pour moi-même, de revivre des souvenirs qui me sont naturellement chers, et d'un autre côté, d'avoir essayé de vous faire un peu ressentir ce que peut être la réaction et naturellement, finalement, la passion que l'on peut avoir envers un univers absolument envoûtant qui est celui de l'Égypte pharaonique.
Merci, monsieur.